L'économiste américain Jeremy Rifkin est l'une des voix mondiales de l'écologie politique. Il publie le New Deal vert mondial aux éditions Les Liens qui libèrent, un ouvrage dans lequel il décrit qu'il est encore temps de faire face au dérèglement climatique en engageant dès maintenant une troisième révolution industrielle basée à 100% sur les énergies renouvelables et l'Internet des objets. Il prévoit dans le même temps l'effondrement des combustibles fossiles avec l'éclatement imminent de la bulle carbone. Il propose en outre 23 initiatives clés pour entreprendre ce changement, parmi lesquels une taxe carbone universelle qui ne manquera pas de susciter des réactions dans notre pays. Jeremy Rifkin est l'invité exceptionnel de la Terre au Carré et vous pouvez dialoguer avec lui dès maintenant en direct en nous appelant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans un instant.
Et oui, je vous parle de Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Elle a dit un petit truc hier qui m'est resté en travers de la gorge.
Dans la deuxième demi-heure, le feuilleton de la semaine à Marseille. Dernier reportage aujourd'hui de Maude de Carpentier avec des habitants qui ont trouvé une solution originale pour nettoyer la pollution. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Vincent Huot de l'Université de Lorraine pour nous parler de l'engagement des universités pour l'environnement. Et puis enfin, notre invité découverte est la géographe Heidi Sevestre pour un documentaire sur le désert dans les Émirats Arabes Unis qui sera diffusé ce soir sur France 5. Voilà pour le sommaire complet de cette Terre au Carré, réalisé par Céline Hilla avec à la technique Michel Bézikian et Philippe Duclos.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
À nous.
Sur France Inter.
Bonjour Jeremy Rifkin. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce livre qui paraît en France aux Liens qui libèrent, le New Deal vert mondial, sous-titré « Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 ». Et finalement, ce qui ressort d'abord à la lecture de votre ouvrage, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Et ça n'est pas un luxe en ces temps où l'effondrement et l'apocalypse sont deux idées forces de nos sociétés. L'espèce humaine peut donc encore s'en sortir.
In this case, the collapse is welcome news.
Eh bien, dans ce cas, l'effondrement, c'est de la bonne nouvelle. Et j'aimerais que vos auditeurs, nos auditeurs l'entendent bien. À partir de 2019, le coût moyen avec amortissement du solaire et de l'éolien revient moins cher que toutes les autres sources d'énergie. Le nucléaire, le charbon, le pétrole, et ça vient de passer sous le coût du gaz naturel. Ça change tout. Ce qui va se passer, donc, des milliards de dollars sont en train de quitter l'industrie des énergies fossiles parce que nous devons faire face à ce que Citigroup, le grand groupe bancaire, dit qu'il y a 100 billions, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars en actifs bloqués. Et le marché parle, donc tous ces droits d'exploration, tous ces forages, tous ces oléoducs, toutes ces raffineries, tout le complexe qui est autour des énergies fossiles est plein d'actifs qui ne seront jamais remboursés parce que le solaire et l'éolien deviennent de moins en moins chers. Et le coût marginal, eh bien, vous savez quoi, le soleil ne vous envoie pas de facture à la fin du mois. Le vent ne vous envoie pas de facture à la fin du mois, ce qui n'est pas le cas du charbon, du pétrole, et du gaz naturel. Ce que nous allons voir entre maintenant et probablement 2028, c'est l'effondrement de la civilisation de l'énergie fossile. Les fournisseurs d'énergie quittent le nucléaire et le pétrole vers les énergies renouvelables. Les véhicules quittent les combustions internes vers l'électricité. Je vais vous donner un exemple. Volkswagen vont faire sortir le dernier véhicule à combustion interne en 2026 et mettre sur la table 80 milliards de dollars pour passer vers des véhicules électriques mus par l'énergie solaire et éolienne. Et on met en place 36 000 stations de recharge avec Bechtel à travers toute l'Europe. Nous consommons 90 millions de barils de pétrole par jour, deux tiers vers le transport. Donc il y a ce passage massif des investissements qui quittent les énergies fossiles parce que principalement les fonds de pension ne veulent pas être bloqués à l'avenir.
Jeremy Rifkin, aujourd'hui les États-Unis, dites-vous, sont une aberration parmi les pays industrialisés, voire parmi les nombreux pays en cours de développement. L'Amérique de Trump, c'est celle de l'ancien monde drogué aux énergies fossiles ?
Mais voilà ce qui est intéressant.
Même le président Trump n'est pas plus fort que le marché. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit encore plus d'oléoducs, plus de raffineries qui sont mises en place aux États-Unis, mais ça ne va jamais être amorti. En fait, ils sont en train de se suicider. Ils creusent leur tombe encore plus profondément. Vous savez, si vous êtes tombé dans un trou, il ne faut pas continuer de creuser, il faut en sortir. Aux États-Unis, c'est intéressant parce que l'infrastructure, 95% de l'infrastructure américaine est propriété des États, des 50 États, et pas du gouvernement fédéral. Eh bien, certains États font ce qu'il faut faire, mais pas suffisamment rapidement.
Alors justement, ce New Deal vert mondial, vous dites également qu'il sera central, un des thèmes centraux de la campagne présidentielle justement chez vous en 2020 aux États-Unis. Vu de chez nous, on n'a pas vraiment l'impression que la question du réchauffement climatique soit un sujet très discuté aux États-Unis. C'est une erreur ?
Il faut faire un pas en arrière et comprendre ce qui se passe avec ces millions de jeunes qui manifestent dans les rues. Certains ont 12, 13, 14 ans. Et puis il y a ceux qui sont nés avec l'an 2000, et ce sont des millions de jeunes qui sont en train de manifester dans les rues. On pense que c'est simplement encore une manif de plus. Mais non, c'est pas comme les autres manifs de l'histoire. C'est la première fois qu'il y a une révolte mondiale du genre humain. Ça s'est jamais produit précédemment. C'est la première des rébellions où toute une génération commence à se considérer comme une espèce en danger, commence à voir les autres créatures vivantes comme faisant partie de la même famille. Ils sont terrifiés. Nous sommes en ce moment sur une courbe d'extinction. Et tous nos scientifiques disent, peut-être qu'on ne réussira pas à survivre. Ces jeunes nous disent, il est temps d'agir en tant qu'une seule espèce et transformer rapidement notre économie, notre société, notre vision du monde, notre façon de vivre. C'est plus l'âge du progrès d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'âge de la résilience. On peut le faire. Et c'est ce que je dis dans mon livre. On peut créer une troisième révolution industrielle, une infrastructure qu'il faut. Et cette infrastructure deviendra à maturité en 20-30 ans, quittera totalement les énergies fossiles, mais tout le monde sera missionné pour le faire.
Alors, vous expérimentez déjà cette révolution, cette troisième révolution industrielle, avec la région des Hauts-de-France. Ça fait partie justement des expériences pilotes que vous menez avec Rotterdam et La Haye, et puis Luxembourg. Qu'est-ce que vous faites exactement pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans cette idée de la transition écologique?
Well, the plans that we're in our sixth year with Halte France, it's the Rust Belt, the industrial
region of France, 10% of the population. Avec les Hauts-de-France, c'était, vous savez, toute cette région qui est hyper industrialisée autrefois et qui était en train de rouiller. Eh bien, vous savez, toutes les grandes révolutions de l'histoire ont un dénominateur commun. Elles doivent toutes mettre en place des infrastructures, changer la façon dont on communique et avoir de l'énergie et avoir de la mobilité. Donc, lorsque la révolution de la communication se met ensemble avec la révolution de l'énergie et des nouvelles façons de se mouvoir, ça change totalement la façon dont la société se régit et vit au quotidien et régit son économie. On est vraiment à l'aube de la troisième révolution industrielle. Soudain, l'Internet, c'est la révolution de la communication, c'est très très bon marché, on a des téléphones qui pour $25 ont plus de pouvoir de calcul que les gros ordinateurs de la NASA lorsqu'on a envoyé le premier homme sur la Lune. Et tout cela, ça converge en ce moment avec un Internet de l'énergie renouvelable numérisé. Il y a des millions de gens qui produisent désormais leur propre énergie solaire et éolienne. Et l'énergie qu'ils n'utilisent pas, ils le renvoient vers le réseau et le partagent, tout comme nous partageons le divertissement et les informations sur l'Internet. Maintenant, il y a des véhicules électriques qui sont mus par l'énergie solaire et éolienne et ces véhicules seront autonomes, il n'y aura plus de conducteurs qui seront dirigés par les systèmes analytiques de l'Internet. C'est une nouvelle façon de voir le monde. Alors, et ce sont les régions qui doivent mettre en place ces nouveaux réseaux.
Et donc, avec la région des Hauts-de-France, vous donnez 20 ans, c'est ça, pour essayer de mettre au point cette nouvelle révolution verte ?
Voilà ce qui est intéressant. Mon groupe a fait ça sur 7 régions. précédemment et nous avons appris nos propres erreurs. Lorsque les Hauts-de-France, autrefois c'était le Nord-Pas-de-Calais, le président de la région est venu nous voir et dit « Est-ce que vous voulez nous faire un plan ?» Je dis non, parce que ce sera un petit projet pilote et il y aura un joli ministre qui va venir et avec une petite photo. Nous, il faut faire des transformations à grande échelle à cette infrastructure de l'énergie, des transports et de la communication, contrôlée par la région et pas par des grandes sociétés. Si vous, vous êtes prêts, et je dis au président de la région, si toute cette région est prête à se mettre avec des assemblées collégiales de pair à pair, 300, 400 personnes, pas un groupe national, non. Et on va revenir avec les meilleurs spécialistes du monde, on va travailler avec ces 300 personnes pendant quelques années, et eux vont mettre en place l'infrastructure de la troisième révolution industrielle, contrôlée par les gens de la région, pas par les grandes entreprises, pour que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent sortir du carbone et qu'ils puissent s'occuper de leur vie. On vient de faire ça pendant 6 ans, on n'y est pas encore, mais il y a des milliers de gens qui sont employés et 1200 projets. Ça vous montre que si les Hauts-de-France peuvent le faire, alors toutes les régions du monde peuvent le faire aussi.
Jérémy Rifkin, une dernière question avant de retrouver les auditeurs pour dialoguer avec vous. Vous dites que le New Deal, c'est une économie circulaire, collaborative, basée sur les nouvelles technologies et l'Internet des objets, des énergies renouvelables. Certains d'ailleurs vous reprochent de rester enfermés dans une vision simpliste des technologies et de leurs effets. C'est vrai que vous, c'est le tout technologique finalement dans ce projet.
Absolument pas. Si vous connaissez ce que j'ai fait au cours des 45 dernières années, j'ai été très critique de beaucoup des...
Mais là, elles sont ultra présentes,
des technologies. Vous savez, le mouvement anti-ONG, c'était chez moi. J'étais souvent critique de la technologie. Mais ici, on ne va pas mettre en place simplement. Ce n'est pas nous qui allons mettre en place les panneaux solaires, les éoliennes. On ne va pas faire, nous, les voitures. On va aller vers des systèmes de partage des véhicules. On va éliminer 80% des voitures. Parce qu'à ce moment-là, les voitures partagées vont pouvoir travailler et rouler 24 heures sur 24. Ce ne sera pas des véhicules individuels qui vont rouler une heure par jour. Non. Et il faut des milliers de personnes qui vont devoir reconvertir tous nos bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va revenir vers l'état de nature? Pas du tout. Ce que moi je dis, c'est que ce sont les communautés qui doivent contrôler les plateformes, qui doivent contrôler la technologie, pas les grandes sociétés. Et vous savez, les jeunes, ils ne vont pas quitter la technologie intelligente, ils ne vont pas laisser tomber leur smartphone ou leur voiture électrique. Il faut que les communautés s'occupent du destin, de leur propre destin, comme les Hauts-de-France le font. Et ce ne sera plus dans les mains des grandes entreprises. Et les employés auront, et les travailleurs auront de nouvelles opportunités de travail et d'emploi.
Allez, on poursuit la discussion ensemble dans quelques instants. Jérémy Rifkin avec le New Deal vert mondial, c'est au lien qui libère et vous êtes l'invité exceptionnel de la Terre au Carré aujourd'hui.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille, une phrase qui vous est restée en travers de la gorge, phrase prononcée par Brune Poirson, secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique.
Oui, c'était hier matin. Elle participait à un débat avec les utilisateurs du Bon Coin, relayé sur son compte Twitter avec photos et vidéos. Et au bout d'une vingtaine de minutes, Brune Poirson parle du zéro déchet. Elle se souvient d'un déplacement sur ce thème à Roubaix il y a un mois avec le Premier ministre.
C'est pas un truc de bobo, le zéro déchet. Et nous, on a vu des familles pour qui ça changeait la vie d'être dans cette logique de recyclage, de réemploi. Elles disaient qu'elles économisaient jusqu'à 150 euros par mois.
Voilà l'argument économique pour vanter le zéro déchet. 150 euros de moins dépensés chaque mois. Jusqu'ici, pas de problème. Mais c'est ce qu'elle ajoute juste après qui m'a fait tiquer.
Ça leur laissait du coup beaucoup plus de temps à passer avec leur famille. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller bosser pour avoir de l'argent, pour acheter suffisamment de choses, elles fabriquaient la lessive. J'ai vu cette mère de famille avec ses enfants. Elle fabriquait ses éponges et beaucoup de choses avec ses enfants.
Alors attendez, on n'a pas bien entendu. Juste pour être sûr, on remet.
Au lieu d'aller bosser pour avoir de l'argent, pour acheter suffisamment de choses, elle fabriquait la lessive. J'ai vu cette mère de famille avec ses enfants.
Ah, le zéro déchet, donc c'est super. Parce que toi, femme et mère, tu fais des économies, donc t'as pas besoin de t'embêter à aller travailler. Et tu peux rester tranquille à la maison pour fabriquer ta lessive avec les enfants. Donc c'est comme ça que je l'ai pris. Et j'ai voulu savoir si j'étais la seule à trouver ce tableau légèrement rétrograde. Du coup, j'ai fait écouter à d'autres femmes.
Fabriquer la lessive, j'ai vu cette mère de famille.
C'est la mère de Nick.
Je trouve que c'est assez réducteur, ultra sexiste, de dire que la femme pourra s'occuper de ses enfants et ne pas aller travailler. Parce que je pense que c'est d'un autre siècle.
On est en 2020, en fait. Donc la femme, elle reste pas forcément à la maison à faire la lessive pour s'occuper de ses enfants. Elle a des occupations, elle a un métier.
J'ai vu cette mère de famille avec ses enfants.
Non, ça c'est le Moyen-Âge.
Mais autre chose à faire, profiter de la vie, peut-être aller taper des éponges à faire, merci.
Je trouve ça aberrant ce qu'elle dit. Cette vision archaïque de la femme qui retourne au foyer, moi ça m'insupporte. C'est la liberté de chacun de choisir si elle veut travailler ou pas, quoi.
Alors non, parce que les femmes donc travaillent uniquement pour gagner de l'argent, bien sûr.
Au lieu d'aller bosser pour avoir de l'argent, pour acheter suffisamment de choses.
Vous travaillez ou pas ?
Oui, je travaille.
Et vous travaillez juste pour gagner de l'argent ?
Non, je travaille parce que j'aime beaucoup mon travail. Je suis éducatrice spécialisée.
Moi, j'ai du plaisir à faire ce que je fais.
Moi, je préfère travailler que de rester à la maison à fabriquer ma lessive moi-même.
Je suis heureuse d'être maman. Mais je suis aussi super heureuse d'être une femme accomplie professionnellement.
On a un cerveau, en fait, qui veut fonctionner et faire quelque chose d'intéressant pour soi-même aussi.
Et c'est une femme modeste hein, qui le dit, comme les familles de Roubaix, dont parle Brune Poirson. Enfin, c'est le dernier point, en imaginant qu'on ait effectivement besoin de rester à la maison plutôt que d'aller travailler pour économiser 150 euros par mois dans la famille. Vous avez entendu aussi l'exemple que donne la ministre, valide unité d'un autre temps.
La lessive, c'est le travail des femmes. L'angle qu'elle a pris, il est comme ça.
Et oui, elle ne mentionne rien de masculin, pas de père au foyer associé au zéro déchet dans sa phrase. Il faut dire que les études, là, vont dans le même sens. Les femmes seraient plus sensibles aux questions environnementales. D'ailleurs, elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à avoir voté pour Europe Écologie Les Verts en mai dernier aux européennes. Et malgré des contre-exemples qu'on ne peut évidemment qu'encourager, ce sont encore elles qui gèrent les tâches domestiques et donc la transition écologique à la maison.
Qui c'est qui se recoltine tout ? C'est encore les femmes. Parce que la bouffe à la maison, c'est toujours nous. La lessive, c'est toujours nous. Et là, si en plus il faut faire ses éponges et son savon, ça va quoi.
Aux hommes de faire attention, de créer leur propre lessive et de s'amuser avec leurs enfants en créant la lessive. Pourquoi que les femmes ?
La femme, on lui impute tout, ça suffit. La femme, elle a déjà 5 vies en une. C'est long quoi. En plus, on va pas nous imposer. Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on m'impose le zéro déchet quoi. Et je trouve ça d'autant plus insupportable que c'est une femme qu'on parle.
Voilà, Brune Poirson qui conclut.
Elle passait plus de temps avec ses enfants et elle économisait de l'argent et c'était bon pour la planète. Donc c'est aussi toutes ces logiques-là qui peuvent être impulsées par l'État.
Eh ben, on les remercie donc pour cette belle vision de la femme moderne.
Avec une petite dose de charge mentale en prime. Voilà. Camille Cronier, Camille Passauvert, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Jérémy Rifkin, les femmes jouent un rôle absolument essentiel aujourd'hui, non seulement dans cette nouvelle génération dont vous parlez, mais dans l'ensemble de la société pour cette transition environnementale.
Well, absolutely. Look at the young congresswoman from New York.
Regardez cette jeune femme, membre du Congrès, Alexandra Cortez, qui vraiment est quelqu'un qui est tellement en avance pour faire cette transition. Nous avons des enfants maintenant qui rentrent à la maison et qui ont peur parce qu'ils ont entendu parler de cette extinction. Des espèces. Nous sommes en ce moment dans un moment où il y a une extinction des espèces. Nos scientifiques nous disent que là où nous en sommes aujourd'hui, nous allons perdre la moitié des espèces vivantes sur Terre au cours des décennies à venir. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 65 millions d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est prendre un pas en arrière et se demander comment motiver nos communautés pour pouvoir se réunir et commencer à instituer une nouvelle infrastructure dans nos régions qui nous permette de quitter l'énergie fossile, passer à l'énergie éolienne et solaire, créer des nouveaux emplois et de vivre de façon plus pérenne, changer notre façon de manger. C'est pas la routine. Mais vous savez, c'est plus le moment d'avoir des petites conversations sur la façon de choses marginales. Ce que les jeunes nous disent aujourd'hui, c'est que nous voulons de l'action maintenant. Et nous sommes dans une situation où le gouvernement français et les régions de France doivent commencer à créer des feuilles de route pour arriver à une énergie post-énergie fossile. Il ne faut pas attendre du gouvernement central, du gouvernement national de vous aider. Je dis à toutes les régions de France, arrêtez de voir ou d'attendre l'État-nation qui vous aide. C'est vous, régions, de devoir le faire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour ça que nous avons de l'espoir et pas de la peur. Et il y a des possibilités pour que nous puissions passer vers cette nouvelle ère économique.
Et on en parle avec les auditeurs de la Terre au carré, 01 45 24 7000.
Du matin, le jour lointain, la rumeur des transports.
sur le départ quotidien, le métro et ses couloirs de hall de gare. Il est sûrement minuit quelque part. Loin d'ici, c'est encore le soir, sous la lumière des néons, le nom des bars. Nos voix commençant l'histoire par la fin, la traînée de nos parfums sur les trottoirs. Il est sûrement minuit quelque part. Plus aucune trace de la nuit noire, des dernières cigarettes qui se fixent dans la tête. Plus aucune trace de la nuit noire. On balaie les canettes vides et les rires de la fête. Plus aucune trace de la nuit noire. Descendant ma rue comme d'une autre planète. De fer se relève, les oiseaux se désaltèrent aussi terne. La ville n'a aucun horaire qui nous concerne. Quand viennent les 8h, 8h et quart, il est encore minuit quelque part. Brûlons sur les qu'on décoche dans le noir. Un peu de monnaie dans une poche par hasard. Sur le coup des 8h, 8h et quart, il est encore minuit quelque part.
Mélodie Loret, c'était minuit quelque part.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, si vous voulez savoir pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028, vous pouvez lire ce livre, Le New Deal Vert Mondial de Jérémy Rifkin, qui est notre invité, livre qui paraît au Lien qui Libère. Et nous avons des auditeurs pour vous, Jérémy Rifkin, et c'est Georges qui est là d'abord. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci Georges de poser votre question à Jérémy Rifkin, bienvenue.
Oui, bonjour Jérémy Rifkin. Voilà, j'ai une question, je vais essayer d'être le plus clair, je l'ai écrite un petit peu. Bon, n'est-il pas question, dans ce nouvel optimisme, de miser sur la verdeur d'une absolution accordée par l'énergie renouvelable pour être autorisé à poursuivre une sorte de conquête de l'Ouest éternel, toujours fidèle à la compétition comme seul moteur de notre évolution? Cet enthousiasme me semble encore promouvoir la sacro-sainte croissance et constituer un rejet de toute idée de décroissance.
Merci beaucoup Georges pour votre question. Et effectivement, ce New Deal que vous proposez repose sur une économie capitaliste, hein, toujours, Jérémy Rifkin.
C'est
ce que je dis dans le livre, je dis depuis des années. Il faut changer notre style de vie. Nous consommons trop cette planète. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La question, c'est comment le faire? Bien sûr, il faut passer au solaire et à l'éolien. Vous savez, le soleil, c'est l'énergie de la Terre. Pourquoi pas la capturer? Elle est gratuite. Le vent est là, c'est gratuit aussi. Ce qui est intéressant sur les énergies fossiles, c'est que ce n'est trouvé que dans certains endroits. Donc, il y a beaucoup d'interventions militaires pour pouvoir prendre possession de ces lieux. Et ici, en Europe, deux guerres mondiales ont été avec pour but de maîtriser effectivement ces sources d'énergie. Mais quand il y a un petit peu plus de soleil dans un coin du monde ou dans un coin du pays ou un peu plus de vent, on partage, on vit en solidarité avec les autres êtres humains. Et c'est une approche totalement différente, basée non pas sur la productivité, mais sur la régénération. Et nous pouvons toujours vivre dans une manière qui nous permet, grâce à une vie résiliente, d'avoir une vie qui ait du sens pour nous, mais pas avec cette croissance croissance qu'on a maintenant. C'est pas de croissance. C'est comment est-ce qu'on peut avoir une façon pérenne de vivre. Je vous donne un exemple rapide. Vous connaissez le président Macron? Il a dit au président brésilien, ne brûlez pas la forêt amazonienne. C'est les poumons de la planète. Vous vous souvenez de ça? C'était bien. Le président Macron a compris qu'il s'agissait de bioéthique et non pas de géopolitique. Et le président brésilien a dit non, c'est à nous. Et vous savez pourquoi on brûle les forêts d'Amazon? Pour faire de la nourriture pour le bétail, pour que vous ayez votre steak dans votre assiette. Et donc, en perdant le sol, il va falloir trouver absolument de la nourriture pour les êtres humains. Il faut que nous vivions de façon plus pérenne avec la planète.
Alors, Alexandre, sur Facebook, demande si cette croyance dans les énergies vertes n'est pas un leurre. La technologie ne résoudra pas tout le temps, et surtout dans le temps imparti, et surtout l'impact de ces technologies est considérable sur l'environnement.
Ça fait 40 ans que je dis que la technologie ne résoudra pas tous nos problèmes, mais c'est un outil. Ce qu'on a maintenant, c'est une révolution technologique qui peut être contrôlée par le peuple. C'est le pouvoir au peuple. Vous savez, qui produit l'énergie solaire et l'éolien? C'est des petites entreprises, c'est des coopératives, c'est chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas capturer le soleil où il est, capturer l'énergie géothermique? C'est bon marché, il y a des millions de gens qui le font déjà. C'est de la technologie, mais elle n'est pas entre les mains d'une énorme entreprise mondiale. C'est de l'énergie qui appartient au peuple, c'est le pouvoir au peuple. Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait ça? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des panneaux solaires sur notre toit? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est de la technologie.
Oscar, bonjour, vous êtes en ligne au standard de la Terre au Carré, bienvenue à vous, et on écoute votre question pour Jérémy Rifkin.
Oui, bonjour France Inter, merci de prendre ma question. Je vais faire une question la plus courte possible à cause de la traduction.
Merci.
Monsieur Rifkin, dans votre livre, vous parlez notamment de la solution des éoliennes, mais vous savez mieux que moi que leur moteur de dernière génération utilise massivement des terres rares dans les aimants de ces moteurs. Et les terres rares sont polluantes, vous le savez, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est vraiment une solution?
Et c'est la même chose d'ailleurs pour les voitures électriques. Hein. On pourrait poser exactement la même question. Vous répondez à Oscar, Jérémy Rifkin?
I'll give you a good example. BMW
va se mettre à produire des véhicules électriques et les batteries n'auront pas d'éléments en terres rares. Nous trouvons des substituts chaque jour aux terres rares. Il y a une fabrique, une usine dans le Colorado qui est là depuis des dizaines d'années, qui vient d'annoncer qu'ils vont mettre en place des panneaux solaires avec 95% de l'acier va être généré par le solaire. Bien sûr, il faut passer vers des technologies qui sont durables. On a beaucoup d'exemples. Au lieu de se plaindre, au lieu de dire on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, il faut se concentrer pour sortir des énergies fossiles de toutes les industries parce que l'énergie solaire est beaucoup moins chère que les autres énergies. Et on n'a absolument aucune excuse pour dire « Ah non, on ne peut pas le faire ». Trouvez où ça peut être fait et faites-le.
Allez, un des leviers très importants, on ne va pas le développer malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, mais il est très très présent dans le livre, c'est le levier financier des investissements, hein, mettre son argent dans des fonds de pension ou dans des banques qui évidemment priorisent aussi les projets écologiques.
Ça va surprendre tout le monde, ça. Karl Marx est en train de se retourner dans sa tombe. Vous savez qui sont les vrais capitalistes du monde aujourd'hui? Ce sont des centaines de millions de travailleurs et de leurs fonds de retraite. C'est le plus grand capital existant au monde, des milliards de dollars. Vous savez quoi? Ces fonds de retraite quittent les investissements dans l'énergie fossile parce qu'ils se rendent compte que ces industries vont faire banqueroute et ne pourront jamais avoir leur pension, leur fonds de retraite. Et donc les grandes villes du monde entier se retirent des fonds qui ont investi dans l'énergie fossile. Et ils veulent investir maintenant leurs fonds pour leurs enfants dans la troisième révolution industrielle. Donc ça, c'est la première des choses. Les travailleurs du monde, les nouveaux capitalistes, doivent le faire avec leurs propres investissements.
Merci Jérémy Rifkin d'être venu aujourd'hui.
France Inter. La Terre au carré.
Je vous donne le programme, Camille, de la deuxième demi-heure. Alors, au menu, vos solutions pour la planète avec Vincent Huot de l'Université de Lorraine pour nous parler de l'engagement des universités en faveur de l'environnement. Et puis enfin, notre invitée découverte est la géographe Heidi Sevestre pour un documentaire sur le désert dans les Émirats Arabes Unis qui fera l'objet justement d'un film diffusé ce soir sur France 5. Maud de Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes toujours à Marseille et pour la dernière fois aujourd'hui pour parler de la Méditerranée, de sa pollution et d'une solution originale que des citoyens ont trouvée pour nettoyer la mer.
Eh oui, alors je vous présente Pablo, Romuald alias Romu, Jean et Clémentine. Ils sont scientifiques, maçons ou encore sapeurs forestiers en semaine, mais le week-end, ils sont sous la mer à la recherche de vieux filets de pêche. Je les ai rencontrés évidemment sur un bateau, en homme et femme grenouille, combinaison intégrale et masque sur le nez.
On va aller sur Pablo, qu'est-ce que tu veux faire?
Je pense que ça peut passer en friole, là, la mer n'est pas trop remuée. Donc on va aller sur le filet de chalut. Donc c'est un filet qui est posé dans le sable et qui recouvre deux roches sur à peu près 33 mètres de profondeur. Et voilà, on va plonger. Donc on a plongé dessus il y a déjà pas mal de temps. On va voir dans quel état il est, s'il est bien toujours là. Et on va essayer de retirer quelques portions.
Donc là, on est arrivé sur le site ?
On est, ouais, on est pas loin du site. On est à 200 mètres à peu près du site. Là, on travaille avec le GPS pour que moi, en surface, je puisse visualiser à chaque fois où ils sont et marquer le site. Largué !
Du coup, Jean-Clémentine, on va suivre le bout. On devrait tomber. Il y a deux roches au fond. On devrait tomber juste à côté des roches. On va les voir. On va suivre le filet. On va repérer la partie qui est dans la Posidonie. On va accrocher le parachute sur le filet et le filet va remonter à la surface.
Ce que je vous propose, c'est une mise à l'eau en simultané.
Alors ça y est, là, Pablo, Jean et Clémentine viennent de sauter à l'eau. Ils commencent leur plongée. Ça y est, on les voit plus. Et moi, je suis donc sur le bateau avec le pilote du jour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je suis Romuald Arnaud, j'ai 41 ans. Je suis membre de Palana depuis 2016.
Et alors, c'est quoi le problème d'un filet au fond de la mer ? Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est pas grave, un filet dans le sable, ça abîme rien.
Quand il est posé, non. C'est quand il est encore en position de pêche. Donc, le poisson se fait piéger par le filet. Des espèces comme le mérou, le corbe, c'est des poissons qui sont protégés, qu'on n'a pas le droit de pêcher, vont se faire piéger, vont mourir. On croise les doigts que nos enfants et nos petits-enfants ont la chance de les connaître. Par contre, oui, effectivement, un filet qui reste sous l'eau, bien à plat, ça va quasiment rien engendrer, sauf que c'est quand même une matière plastique pour la plupart. Et la dégradation du plastique dans les années, ça fait des microparticules de plastique et qui sont pas bons pour notre environnement. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment quand un pêcheur ne retrouve pas son filet, parce que suite à une tempête ou autre, son filet n'est plus à l'endroit où il l'avait largué, qu'il nous appelle. Et à ce moment-là, nous, on peut aller les récupérer rapidement. Là, on voit qu'ils sont en train de remonter. Parce qu'on a les bulles qui se rapprochent le plus près de la surface. Voilà, là ils font surface.
Ah, elle a quelque chose dans les mains quand même.
Hein. Ouais, ils ont remonté le filet, une partie du filet à la main.
Donc les plongeurs remontent à bord. Déçu ? C'était pas le bon endroit ?
Bon, on n'était pas exactement au même endroit, je pense, que la dernière fois.
Là, ouais, vous avez ramassé quoi là ?
On a ramassé. 5 litres à peine, peut-être, un petit filet. Moi, je suis Pablo Ligère, j'ai 30 ans. Je suis président de l'association, elle a fondé en 2016, pour projet donc de récupérer les filets de pêche en plongée, les filets fantômes, donc les filets qui sont perdus en mer. Ils peuvent avoir des impacts sur un petit peu toutes les espèces, dont certaines espèces protégées, comme la Posidonie. Cette espèce-là, on la retrouve qu'en Méditerranée. Et donc c'est des espèces qui vont faire de vastes prairies sous-marines. Donc elle a un certain nombre de rôles. Ça va servir de nurserie pour les juvéniles de poissons. Tous les bébés poissons vont pouvoir venir se cacher dedans. Ça sert aussi de garde-manger pour les prédateurs. C'est des plantes, donc elles font de la photosynthèse, donc elles produisent de l'oxygène. Donc c'est le poumon de la Méditerranée. C'est pour ça qu'il faut la protéger.
Qu'est-ce que vous faites des filets que vous retrouvez ?
Pour transformer des vieux filets en nouveaux objets, c'est possible, mais il faut que le filet soit suffisamment propre. Là, on voit bien que le filet est complètement envahi de roches, de débris, d'algues. C'est marron, c'est vaseux.
Alors celui-là, par exemple, il finit à
la
poubelle ?
Il va à la poubelle et en soi, ben, il vaut mieux qu'il finisse en déchetterie plutôt qu'il reste au fond de la mer. Et si on peut aller plus loin dans la démarche, eh ben, ça sera que bénéfique.
Par exemple, les filets propres, comment vous les revalorisez après ?
Donc on travaille avec une association sauvage qui récupère une partie de nos filets pour en faire des bracelets. Sur certains filets à mailles assez fines qui sont propres, ils peuvent en faire des sacs, des filets de foot, de volley, de choses comme ça. Et l'idée un peu de la démarche de l'association, c'est on n'est pas tout seul sur la mer et on essaie de travailler en commun sur ces projets. Du coup, à terre, on travaille avec les pêcheurs aussi pour récupérer leurs vieux filets et on va essayer du coup de trouver des choses pour des filières pour le recycler ou le revaloriser.
Et alors, après avoir enlevé les filets, Maud, l'équipe ne s'arrête pas là ?
Eh bien non, ils reviennent sur place quelques semaines plus tard pour faire un suivi scientifique, observer si la faune ou la flore ont bien repris leurs droits. À savoir également que si vous tombez sur l'un de ces filets fantômes, il suffit d'aller sur le site internet de Palana Environnement et de leur signaler.
Merci beaucoup Maud de Carpentier. L'intégralité de ces reportages méditerranéens est à réécouter évidemment sur franceinter.fr. Merci à vous.
Merci. France Inter. La Terre au carré. Solutions pour la planète.
Et Vincent Huot, vous êtes en ligne avec nous de Nancy. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue, vous êtes vice-président immobilier et transition énergétique à l'Université de Lorraine. Et dans la vie scientifique, vous êtes également paléontologue, c'est ça ?
Absolument, on ne peut rien vous cacher.
Bon, en quoi consiste votre travail au sein de l'Université de Lorraine ? On aimerait bien savoir avec Camille.
Alors moi je m'occupe donc, comme vous l'avez compris, de la partie immobilière. A priori on peut se dire, bon, ça n'a pas directement de rapport avec le développement durable, avec la préservation de la planète, et pourtant c'est pour ça que on a rajouté dans le titre le mot de transition énergétique, hein, parce qu'il y a en fait de gros enjeux sur l'immobilier universitaire, et on essaye en tout cas de travailler de façon intelligente sur la réduction de l'empreinte énergétique de ce patrimoine immobilier.
Donc votre travail au sein de l'université autour du développement durable, c'est quoi exactement ? Vous avez plusieurs casquettes ?
Alors, j'ai eu plusieurs casquettes puisque j'ai été dans le passé pendant 3 ans chargé de mission développement durable, responsabilité sociétale de l'université. J'ai pris maintenant donc cette responsabilité sur le patrimoine immobilier qui est dans la prolongation. Hein. À l'Université de Lorraine, on a une approche qui est déjà relativement ancienne. On peut même dire que ça, avant même la création de l'Université de Lorraine en 2012, il y a eu recrutement de ce qu'on appelle un manager énergie, on dirait un économe de flux en bon français.
Oui,
déjà en 2009. Alors l'université a été créée en 2012, mais les 4 établissements qui préfiguraient cette fusion ont choisi déjà de se regrouper et de recruter un manager énergie, ce qui était une première à l'époque en France. Et ils ont donc travaillé, ce manager énergie a travaillé sur la réduction des coûts. C'était évidemment le but recherché au départ, essayer d'économiser sur ces flux. Mais également, quand on recrute quelqu'un comme ça qui est sensibilisé à la question énergétique, tout de suite, on embraye sur des questions environnementales et on se dit, ça serait quand même plus intelligent de travailler avec des sources d'énergie un peu plus propres. On a supprimé les chaudières au fioul, on a privilégié plutôt le raccordement à des réseaux de chaleur, notamment des réseaux biomasse, et donc on a progressé sur les deux plans, aussi bien sur la facture énergétique que sur la qualité de l'approvisionnement en énergie.
Ouais, si on regarde la carte de France, justement, toutes les universités aujourd'hui vraiment mènent des actions dans le domaine du développement durable, c'est très clair.
Oui, je vais pas dire qu'on est exemplaire à l'Université de Lorraine, ça serait mépriser ce que font nos collègues et ce que font très bien nos collègues ailleurs dans d'autres universités.
Oui.
Simplement, nous, on essaye de suivre notre propre chemin, et puis on a aussi une démarche collective, hein, c'est-à-dire qu'on est inscrit dans une démarche qui a été lancée par la Conférence des présidents d'université sur la rénovation de l'immobilier universitaire. On a un plan qui s'appelle, c'est un acronyme PEC 2030, PEC 2030, pour Plan Efficacité Énergétique des Campus à l'horizon 2030, et c'est justement tout un travail sur ce que doit devenir l'immobilier universitaire en France. C'est 18 millions de mètres carrés, hein, dont beaucoup relèvent du qualificatif de passoire énergétique. Donc on a vraiment des grosses problématiques à régler de ce côté-là. Et puis quand on est dans une université, qu'on est en train de préparer les générations futures qui vont avoir à affronter ces enjeux-là, on ne peut pas se permettre de ne pas respecter les principes de base sur les économies d'énergie. Donc on travaille vraiment avec 10 universités sur ce plan et on a fait des propositions pour rénover en actionnant très fortement le levier de l'efficacité énergétique pour que nos campus ne soient plus des passoires énergétiques, mais au contraire plutôt des démonstrateurs de ce qu'on peut faire d'efficace aujourd'hui dans ce domaine-là.
Et Vincent Yo, du coup, vous êtes en train de nous dire que les universités ont de l'argent pour rénover leurs bâtiments.
Ah, ça, incroyable. Ça j'aimerais bien vous dire ça. J'aimerais bien vous dire ça. Mais en tout cas, ce qui est original dans l'approche.
Mais vous allez avoir l'argent, non mais sérieusement, vous avez ce plan.
Non, sérieusement, bien sûr que non.
Alors comment vous allez faire?
Alors justement, l'idée c'est non pas de tendre la main comme on le fait souvent en disant on a besoin d'argent pour rénover notre patrimoine universitaire, mais de dire les universités vont s'engager, c'est-à-dire qu'elles vont emprunter une partie de la somme si on les autorise à le faire. Et puis effectivement, il y aura besoin d'un fonds d'amorçage de l'État quand même. On pourra pas tout faire tout seul. On est, comme vous le soulignez, on n'est pas suffisamment riche pour faire ça. Mais en revanche, on est capable d'avoir une action très volontariste, c'est-à-dire on va faire un effort. Si vous nous laissez recourir à l'emprunt, on va emprunter pour investir intelligemment et se sortir de l'ornière qu'on a très bien identifié, à savoir que si on ne fait rien sur l'immobilier dans les années qui viennent, on va se retrouver avec un parc qui sera impossible à entretenir, et puis surtout des coûts qui vont exploser, puisque le coût de l'énergie, on le sait, va augmenter, il augmente déjà, et puis la taxe carbone va également rajouter une couche à ces augmentations. Donc on va se retrouver dans une situation où on ne pourra pas gérer la facture énergétique.
Vincent,
donc on a vraiment cette volonté de tirer très fortement sur le levier énergétique.
Il nous reste très peu de temps malheureusement, mais les étudiants vous poussent beaucoup sur le campus Lorrain, justement, pour aller plus au-delà sur des démarches environnementales.
Oui, et puis on essaye de les mobiliser, puisque dans le chemin particulier qu'on a choisi, on a mis en place une plateforme qui s'appelle On s'engage, depuis la rentrée et jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 13 décembre. Elle est ouverte aux étudiants, au personnel de l'université, mais également aux extérieurs qui veulent nous faire des propositions pour améliorer les choses. On a voulu cette démarche partant de la base, parce que quand on est dans un établissement qui a 60 000 étudiants et 7 000 personnels, on peut pas imposer d'en haut des solutions. On a déjà envie de savoir ce que les gens ont envie de voir réaliser dans leur université. Et on s'aperçoit par exemple que dans les 150 propositions qui sont déjà remontées, il y a une grande majorité de propositions qui concernent les déchets. Il y a la mobilité et les déchets. Les déchets, c'est un peu une surprise que ça arrive en première position.
Oui.
Les gens sont absolument ulcérés par le gâchis et ils veulent qu'on agisse pour éviter de créer des déchets en amont et puis pour les trier en aval.
Et il y a le site onsengage.unif-lorraine.fr pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup Vincent Huot. Et si vous aussi de votre côté vous êtes à l'origine d'une initiative pour la planète dont vous souhaitez nous parler, c'est très simple.
C'est sur le site de la Terre au carré sur franceinter.fr.
Allez, dans un instant, on part dans le désert.
I know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah. You see, you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, more, just go, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever see bad mind. Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just please don't waste my time.
About the way your body twisting, make me lose control in a distant boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today to me bad. Put your
never lied, you already know I'll
be honest.
C'était Georgia Smith et Burna Boy avec Be Honest et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Heidi Sevestre.
Bonjour Mathieu.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes glaciologue, membre du Club des Explorateurs et vos recherches se concentrent sur la dynamique des glaciers dans les régions polaires. Et vous êtes également l'un des visages de la case Science Grand Format sur France 5 le jeudi soir pour Terres Extrêmes. C'est une collection de documentaires que vous incarnez aux quatre coins du monde. On vous retrouve justement ce soir à 20h50 pour deux documentaires de 52 minutes. Le premier s'intitule Les Émirats face au désert. Quel est d'abord l'esprit de cette collection pour vous qui êtes scientifique?
C'est vraiment une approche très intéressante pour moi en tant que scientifique parce que on se rend exactement aux quatre coins du monde pour aller vers ces pays qui font face à des phénomènes naturels absolument extraordinaires, des vrais challenges qui peuvent mettre leur économie et leur population en péril, mais grâce à la science, ils arrivent à en tirer parti.
Alors, vous êtes originaire des Alpes, vous êtes même diplômé du centre universitaire du Svalbard. C'est l'université la plus au nord du monde, donc vous avez votre diplôme. C'est logique que vous fassiez de la glaciologie après avoir fait vos études là-bas?
Oui, c'est tout à fait logique. Surtout en grandissant dans les Alpes, j'avais qu'une envie, c'est choisir n'importe quelle excuse pour passer le plus de temps possible auprès des glaciers. Et évidemment, en faisant une thèse au Svalbard, on n'a qu'une envie, c'est continuer.
Absolument.
Et c'est pour ça que vous faites donc un documentaire là sur le désert en Arabie Saoudite.
Exactement, c'est pour contredire tout ce qu'on se dit. Donc ça, ce sera ce soir, avec donc ce documentaire absolument étonnant, consacré donc à ce désert de sable chaud, voire même brûlant, aux Émirats Arabes Unis. Effectivement, c'est l'un des plus grands déserts au monde, c'est ça?
Exactement, le désert de Rub al Khali, c'est le désert en continu, le désert de sable le plus grand du monde. Et c'est un véritable challenge pour le pays, pour les Émirats Arabes Unis.
Les températures peuvent monter jusqu'où à peu près?
Alors là, on est vraiment très au-delà de ma zone de confort. Ça peut monter jusqu'à 60 degrés Celsius.
Et apparemment, ça ne va pas s'arranger, c'est ça? C'est aussi un des effets du réchauffement climatique?
Exactement, donc pour ce pays, le changement climatique est pris très au sérieux. Même si évidemment son économie repose avant tout sur les énergies fossiles, le changement climatique les heurte de plein fouet. Le climat va s'assécher et les températures continueront à augmenter.
Il y a de la vie quand même dans le désert des Émirats?
Il y a de la vie et heureusement, il y a de la vie parce qu'il y a des nappes phréatiques sous le désert. Alors on les voit pas, on les voit très rarement, seulement en utilisant des instruments spéciaux. Mais s'il y a de l'eau, il y a forcément de la vie.
Alors vous avez rencontré une chercheuse de l'Institut de géologie de Dubaï qui étudie justement l'évolution de ce désert. Alors qu'est-ce qui fait les caractéristiques justement de cette région tout à fait particulière du globe là aujourd'hui?
Alors évidemment le désert c'est l'élément naturel principal des Émirats Arabes Unis et c'est un élément qui menace les populations au quotidien. Parce qu'on peut avoir évidemment des températures qui augmentent très vite grâce au désert mais surtout des tempêtes de sable qui peuvent aller jusqu'à Abu Dhabi, jusqu'à Dubaï et abîmer les infrastructures.
Ouais. Alors justement, au sujet de Dubaï, vous vous y êtes rendu, ce qui donne toujours d'ailleurs l'objet d'images absolument spectaculaires. Vous êtes monté dans cette tour la plus haute du monde, je crois, qui n'a pas été détrônée pour l'instant.
Exactement, le Burj Khalifa, 830 mètres.
C'est ça, 160 étages à peu près, c'est ça. Donc vous êtes allé au sommet évidemment de cette tour. On va écouter un extrait puisque le vent, c'est une des problématiques par rapport à ces infrastructures.
La tour Burj Khalifa est sous surveillance 24 heures sur 24. Des centaines de capteurs placés sur les façades transmettent en temps réel les données météorologiques.
C'est le cerveau de notre immeuble. Aujourd'hui, c'est plutôt venteux et l'immeuble est confronté à des vents de 32 km/h. Ici, comme on peut le voir, le bâtiment se déplace d'environ 10 cm par rapport à son axe. Le plus grand mouvement de la structure que nous avons enregistré est de 30 cm.
Seulement 30 cm d'oscillation. Donc le bâtiment est fait vraiment pour bouger s'il y a du vent. C'est pris dans le concept de pouvoir absorber cette énergie.
Exactement. Imaginez la tour bouger de 30 cm dans de multiples directions, voire même de façon elliptique.
C'est absolument incroyable. Pour une tour de cette hauteur, c'est vraiment très très peu de mouvement.
Alors ça, Heidi Sevestre, c'est une tour qui est sous surveillance 24-24.
Exactement, pas le choix. À cette altitude-là, à 830 mètres d'altitude, rien n'arrête les vents. Mmh. Alors évidemment, quand on a un obstacle aussi monumental que celui-là, il faut le surveiller à tout prix 24 heures sur 24.
Mmh. Camille, vous connaissez cet endroit ?
Oui, quand on est tout en haut, on voit la terre qui est ronde. Hein, on sait pas du tout plat ce qu'on voit à l'horizon. C'est vraiment...
Ça nous confirme que la terre est ronde, d'ailleurs.
Ça nous confirme que la terre est ronde, il n'y a pas besoin d'aller très loin sur... Ouais.
Alors il y a des capteurs qui sont placés absolument partout sur le bâtiment, justement, pour avoir des données et prévenir les habitants en cas de besoin. Hein.
C'est ça, exactement. Quand j'étais là-haut, on était pratiquement au 154e étage.
Ouais.
Et on a ouvert la fenêtre. Je me suis rendue sur la terrasse du bâtiment. Et alors, je peux vous dire, on s'en prend plein la figure.
Ouais.
Et le bâtiment est fait justement pour être suffisamment flexible par rapport au vent. Si on avait un obstacle trop solide, il risquerait de craquer, de s'abîmer. Et là, on est vraiment à la pointe de l'architecture. Un bâtiment qui bouge tout doucement.
On l'entendait, 30 centimètres. Hein, c'est absolument époustouflant.
Exactement.
Heidi Sevestre, au cours de cette balade justement dans ce désert des Émirats Arabes Unis, vous êtes également rendue dans un oasis qui s'appelle Al Ain. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Et c'est l'une des dernières palmeraies naturelles qui résiste encore à l'aridité du désert.
Oui, exactement. C'est une des dernières, une des plus belles, une des plus grosses aussi. Et c'était très intéressant justement de voir comment, grâce aux techniques ancestrales, on arrive malgré tout à gérer l'eau aux Émirats Arabes Unis.
Donc il y a encore des techniques qui sont utilisées et dans ce pays ultra moderne par ailleurs. Hein.
Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on mélange vraiment les deux, ces techniques ultra traditionnelles, vraiment très ancestrales. C'est prouvé, on sait qu'elles ont marché depuis des siècles et des siècles et des siècles. Mais on combine ça immédiatement avec des technologies ultra modernes.
Alors ces dattiers, ils ont un rôle aussi pour l'écosystème, c'est ce qu'on découvre dans le film.
Oui, c'est exactement ça. Vraiment, ces dattiers, c'est à la base de toute la culture des Émirats Arabes Unis. Ça fait partie de la fondation de toute l'alimentation, mais aussi grâce à cette végétation, on peut garder des réserves d'eau dans le désert.
Alors ce qui est impressionnant également, si vous êtes allé dans le désert, c'est l'amplitude thermique entre le jour et la nuit. Il peut y avoir combien, 60 degrés de différence, parfois
c'est
plus.
C'est monumental, exactement. Ouais. Ouais, on peut avoir jusqu'à 60 degrés de différence entre le jour et la nuit, parce que on s'attend à ce que le désert soit chaud, mais le désert, il est chaud seulement lorsqu'il y a du soleil. Et c'est vraiment drastique. Dès que le soleil se couche, c'est comme si on appuyait sur un bouton, on arrête le chauffage. Et alors là, on sort la doudoune, on sort le bonnet, il fait très froid.
Ouais, c'est ça. Et c'est le sable en fait qui joue ce rôle d'amplitude thermique au fond. Hein.
Exactement, c'est ça. Ouais. Le sable est fait de silice et la silice ne garde pas vraiment la chaleur. Elle marche seulement quand le soleil brille. Et dès que le soleil s'arrête, hop, il fait très froid.
Ouais. Comment les habitants de ces pays désertiques vivent avec en plus cette menace des tempêtes de sable qui visiblement sont aussi de plus en plus nombreuses avec les changements.
Oui, exactement. Le risque du réchauffement climatique dans cette région, c'est la fréquence des tempêtes de sable qui va augmenter, mais aussi leur magnitude, leur puissance. Et grâce aux scientifiques de ce pays-là, les habitants sont prévenus dès qu'il y a une alerte, ce qui arrive assez souvent.
Ouais. Le problème du déficit en eau, ça c'est une réalité quotidienne aussi pour ce pays. Les nappes phréatiques souffrent également beaucoup du réchauffement. Ça, vous avez pu le constater avec des chercheurs sur place.
Oui, tout à fait. Nous sommes allés voir des phalanges. Les phalanges, ce sont des canaux ancestraux qui ont été construits depuis les nappes phréatiques qu'on trouve dans les montagnes, au niveau des monts Ajar.
Ouais.
Et ces canaux parcourent des centaines de kilomètres pour amener l'eau jusque dans les plaines désertiques. Et on se rend compte aujourd'hui que du fait que les nappes phréatiques en montagne diminuent, perdent du volume, et ben ces phalanges s'assèchent. Et on a justement rencontré des scientifiques qui allaient explorer ces canaux et qui ne trouvaient plus d'eau.
Et du coup, comme alternative, ils dessalent de l'eau de mer, c'est ça ?
Voilà, alors exactement.
C'est pas bon pour l'environnement du tout. Hein.
La technique la plus efficace, malheureusement, en ce moment, c'est de désaliniser l'eau de mer. Alors, à quel coût ? L'empreinte carbone est monumentale.
Ouais.
Et évidemment, le sel, faut bien le rejeter quelque part. Et là, vraiment, on change considérablement la salinité de la mer.
Au moment de la découverte, d'ailleurs, des immenses puits de pétrole dans ce pays, il y a eu, évidemment, une sollicitation très forte qui a été faite au niveau de l'eau. Et le fait de pomper de l'eau a terriblement asséché justement les nappes. Hein.
Oui, l'eau est de loin leur ressource la plus précieuse. On pense que c'est le pétrole, mais c'est vraiment l'eau. Et l'eau, les réserves s'assèchent jour après jour. Et le pays commence à prendre ça vraiment très très au sérieux.
Ouais, le pays compte pas moins de 9,5 millions d'habitants dont la consommation dépasse les 500 litres d'eau par jour et par résident. C'est 60% plus qu'un Français d'ailleurs. Est-ce que justement les questions environnementales, écologiques commencent à intéresser véritablement véritablement les Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Vous avez senti qu'il y avait, au-delà des scientifiques que vous avez rencontrés, qui eux évidemment sont au fait de tout ce qui se passe, vous avez observé quand même une attention particulière pour le sujet, ou franchement c'est très loin des préoccupations?
Non, au contraire, c'est une préoccupation réelle, concrète, ce qui se passe vraiment en ce moment. On pense toujours aux Émirats Arabes Unis comme un pays très pétrolier, voire trop pétrolier. Ouais. Mais finalement, c'est un pays qui n'a pas le choix de penser à l'après-pétrole et de penser aussi aux conséquences du changement climatique. Mmh. Et c'est pour ça justement qu'ils ont les scientifiques parmi les meilleurs au monde pour se concentrer sur de nouvelles solutions, de nouvelles options pour faire face au changement climatique.
Ils ont développé une ville, hein, Masdar City, c'est ça? C'est une ville futuriste. Enfin, ça fait une dizaine d'années qu'ils ont commencé le projet. Il y a des panneaux solaires partout, c'est ça?
Alors, Masdar City, c'est un endroit absolument extraordinaire. C'est un laboratoire à cœur ouvert. On teste plein de technologies, là encore des solutions ancestrales, des solutions ultra modernes pour essayer de réduire l'empreinte carbone de la ville le plus possible. Et on voit que ça marche.
Ouais, 50 000 habitants en 2030. Hein, ce serait la première au monde à miser sur la fin du pétrole, en tout cas dans ce pays. Et on verra également qu'on essaye d'ensemencer les nuages pour faire pleuvoir. Hein. C'est ça, hein, c'est une initiative...
Exactement. Alors ça fait partie des techniques que le pays est en train de développer, en quelque sorte d'attraper les nuages quand les nuages passent au-dessus de chez eux pour faire pleuvoir et remplir les nappes phréatiques. Alors c'est discutable parce que les nuages devraient aller pleuvoir un petit peu plus loin, hein, au-delà de leurs frontières, mais c'est une solution parmi d'autres et qui est très efficace.
Merci beaucoup Heidi Sevestre. Ce sera donc ce soir Terres Extrêmes, donc dans ce désert des Émirats Arabes Unis. Puis juste après, il y aura un deuxième documentaire dans la forêt vierge d'Amérique centrale. Là, ce sera dans l'enfer vert. On vous y suivra également, mais heureusement nous sommes rassurés, vous êtes bien rentrés.
Ça va aller là,
et
bien.
On vous verra ce soir, 20h50, c'est sur France 5 dans la case Science Grand Format. Merci beaucoup Heidi Sevestre.
Merci Mathieu.